Dans le chapitre d'aujourd'hui, chapitre 53, donc nous ne sommes pas au chapitre 53, mais on va étudier un extrait de ce chapitre lié à la fête de Shavuot. Le but du cours d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre quelle est la particularité de la Kdusha, de la sainteté, des Louchot, des tables de la loi. Vous allez voir qu'autour des tables de la loi, il y a beaucoup, beaucoup de miracles. Quelle est la particularité des 10 commandements? Parce que finalement, les 10 commandements, ça n'a pas l'air des mitzvot spéciales. Bon. C'est clair, c'est des mitzvot importantes, mais en quoi on en a donné une place tellement importante? Et surtout, comprendre quelle est la particularité du don de la Torah. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a expliqué l'idée générale. On a dit que la nouveauté du don de la Torah, c'est qu'au moment où Dieu a donné la Torah, la voix a intégré la matière au point que la matière ne faisait pas opposition. Vous vous rappelez la voix qui n'avait pas d'écho. Maintenant, il faut qu'on rentre plus dans les détails pour comprendre qu'est-ce que Dieu a dit dans cette voix. C'est quoi ces 10 commandements? Et surtout, qu'est-ce qu'il y avait écrit dans cette table de la loi? Alors d'abord, avant de commencer, quand même il y a des gens qui ont vu le film. Et donc, des fois, ils font l'amalgame avec le film. Donc, tout de suite, je dois mettre quelques points en clair. Le jour où on a reçu la Torah, on n'a pas reçu les tables de la loi. C'était pas le même jour. Parce que les gens ils me disent, oui, mais tu comprends, dans le film, Moïse il descend, il y a les 10 commandements, et en même temps, les gros bras, et etc. Ça s'est pas passé du tout au même moment. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça s'est passé. On a reçu la Torah à Shavuot. À l'époque, la Torah, ça voulait dire, c'était les 10 commandements que Dieu donnait. Ensuite, Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour aller récupérer les tables de la loi. D'accord? Et dans ces tables de la loi, avec lesquelles Moshe Rabbeinu est descendu 40 jours plus tard, dans ces tables de la loi, il y avait l'intégralité des 10 commandements qui étaient écrites. 620 lettres. Lettres. Vous comptez les 10 commandements, 620 lettres. Donc on va essayer de s'arrêter aujourd'hui sur plusieurs symboles des 10 commandements. Le nombre de lettres, le nombre de mots, le nombre de commandements et l'ordre des commandements. Vous allez voir qu'il y a énormément d'allusions. On n'a pas idée à quel point il y a des très grands secrets, des grands secrets qui sont cachés dans les 10 commandements. Ok. Et après, bien sûr, on va essayer de tirer de tout ça un enseignement pour expliquer qu'est-ce que ça nous amène dans la vie de tous les jours. Donc, on est dans le Tanya, comme on a dit, page 413, d'accord? Donc, en fait, la vérité, c'est que ce chapitre de Tanya n'a pas été écrit autour de Shavuot. Il a été écrit autour du Beth Amikdash. Mais, on va se concentrer sur ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, l'endroit le plus sacré, c'était le Aaron, l'Arche Sainte, d'accord? Donc, l'endroit le plus sacré, c'est le Saint des Saints. Et à l'intérieur, ce qu'il y a de plus saint, c'est le Aaron, l'Arche Sainte. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a de plus saint? Les tables de la loi. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi ces tables de la loi. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans ces tables de la loi? Ok? On y va. Alors, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Vehine. Donc on va commencer le chapitre 53. Vehine. Keshaya Baïd Rishon Kayam. Lorsque le premier Beth Amikdash existait. Shebo haya Aaron, dans lequel il y avait le Aaron, l'Arche Sainte, Ve'aluchot, et les tables de la loi, Bevet Kodshe HaKodashim, dans le Saint des Saints. Parce qu'il faut savoir que l'Arche Sainte se trouvait dans le Saint des Saints seulement à l'époque du sanctuaire du Mishkan, c'est-à-dire quand on était dans le désert, et seulement à l'époque du premier temple. Vers la fin de l'époque du premier temple, les sages ont compris que les choses tournaient mal, donc ils ont pris certains objets du temple et ils les ont cachés sous terre. Notamment l'Arche Sainte, il y avait la menorah, notamment la menorah que Moïse avait faite, et surtout l'Arche Sainte avec les tables de la loi à l'intérieur, et un Sefer Torah que Moïse a écrit. Et donc, à la fin du premier temple, les sages l'ont caché. Il y avait une cachette que le roi Salomon avait prévue déjà depuis la construction, une cachette au cas où pour cacher. Et on l'a jamais ressorti de là-bas. Pourquoi? Pourtant, on a construit un deuxième temple. Parce que même lorsqu'on a construit le deuxième temple, les sages savaient. Ils ont eu l'information que ce temple n'allait pas rester éternellement. Donc, ils ont décidé de ne pas ressortir l'Arche Sainte. L'Arche Sainte est restée en bas. Et jusqu'aujourd'hui, elle est en bas sous terre. À tel point qu'on le verra plus tard, la Gemara nous dit que depuis que Dieu nous a donné la Torah et qu'il nous a donné l'Arche Sainte dans laquelle il y a les tables de la loi, si, ne serait-ce qu'un seul instant, il n'y avait plus les tables de la loi dans le monde, quelque part dans le monde, le monde s'écroule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde tient en partie grâce aux tables de la loi qui sont cachées quelque part. Alors, j'ai envie de penser qu'ils sont cachés quelque part à Jérusalem. Bon, peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Si je connaissais la cachette, je vous l'aurais dite. Non, pas du tout, monsieur Milita. Parce que le sceau du Vatican, c'est le deuxième temple, ça. Et le, ça, c'est les objets qu'on a cachés avant la destruction du premier temple. Donc personne n'a eu accès à ça. C'est-à-dire qu'en vérité, bon, ils ont pris des choses importantes, mais c'est les vraies choses importantes
dans le bunker.
Dans le bunker. Oh, voilà. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, Aïta Ashrina, donc à l'époque du premier temple. À l'époque du premier temple, dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait l'Arche Sainte. À l'intérieur de l'Arche Sainte, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait l'étape de la loi. D'accord ? Et donc, c'est la raison pour laquelle qu'on nous dit qu'à l'époque du premier temple, on sentait la Shrina au Beth Amikdash. On sentait la présence divine. Aïta Ashrina, Shehu Malchut Da'atzilut, Shehu Brinat Gilui Or Ensof Baruch. Au passage, vous savez que il y avait énormément de miracles qui étaient liés autour de l'Arche Sainte. L'Arche Sainte. Nous, dans les synagogues, on fait le Aaron HaKodesh, on appelle le Aaron. Parce que ça nous rappelle que dans le Beth HaMikdash, l'endroit le plus sacré, c'était le Saint des Saints, et à l'intérieur, il y avait l'Arche Sainte, une Arche Sainte. Et l'Arche Sainte était notre arme de guerre principale. Il faut savoir que chaque fois qu'on partait en guerre, qui était devant le cortège ? Qui était devant le cortège ? Le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. Au point qu'on connaît l'histoire, les Philistins. D'accord ? Les Philistins. Alors qu'ils ont compris que on gagnait avec l'Arche Sainte, parce qu'on dit que l'Arche Sainte, elle a planifié tous les problèmes. C'est-à-dire, on avançait avec, et puis le problème s'arrangeait d'eux-mêmes. Alors, le Talmud raconte, et c'est raconté dans la Bible, ça aussi, que les Philistins ont décidé de voler l'Arche Sainte. Donc, ils ont fait un stratagème, ils ont volé l'Arche Sainte. Et effectivement, les Juifs ont perdu. Ils ont perdu la guerre. Seulement, 6 mois plus tard, les Philistins ont demandé aux Juifs, on veut vous rendre votre Arche Sainte. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une épidémie, ils n'arrêtaient pas d'avoir des morts partout. Et dès qu'ils déplaçaient l'Arche Sainte, partout où ils déplaçaient, là-bas, il y avait des morts. Donc ils ont compris qu'il ne fallait pas s'amuser avec l'Arche Sainte. Ils l'ont rendu aux Juifs. C'était à l'époque du roi David. Et le roi David, d'ailleurs, c'est une haftara. Il en a fait une fête, il a dansé, au point que même une de ses femmes lui a dit « Mais arrête, tu danses trop, ça ne se fait pas. » Et lui, il a dit « Non, moi, je danse pour la Torah. Il n'y a pas, y a rien qui s'arrête. » Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette Arche Sainte ? Il y avait l'étape de la loi. Alors, en fait, il y avait 3 choses. Et là, on va s'arrêter progressivement. Il y avait l'étape de la loi, les deuxièmes, les débris des premières tables, et le Sefer Torah que Moïse a écrit. Vous savez que Moïse, le jour de sa mort, il a écrit 13 Sifrei Torah. 12, le jour. Un miracle, évidemment. On n'est pas un miracle près. Le jour de sa mort, Moshe Rabbeinu a écrit 13 Sifrei Torah. Et 12, il a donné aux tribus, un par tribu, et le 13e, Dieu lui a demandé de le cacher dans l'Arche Sainte. Et depuis, il est là. C'est-à-dire que lorsque Moshe reviendra, on ressortira. Il y a plein d'endroits dans le Sefer Torah dans lesquels on a des questions comment il faut écrire. Il y a quelques endroits. Et bien, lorsque Moshe reviendra, on ressortira le Sefer Torah que Moïse a écrit. Je donne là-bas.
C'est la référence.
Mais on ne va pas s'arrêter sur le Sefer Torah, on va s'arrêter sur les tables de la loi. Donc, les débris des tables de la loi et les tables de la loi. Bon. Si je vous pose la question, d'après vous, qu'est-ce qu'ont de particulier ces tables de la loi ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'est-ce
qu'ont de particulier ces tables de la loi ? Alors attendez, je vais expliquer ma question dans une seconde. Mis à part ce qu'il y a écrit dedans, le message qui est écrit dedans, qui est un message certainement important.
Mais c'est le même.
Mais ce message aurait pu être écrit sur du bois. Il aurait pu être écrit, je sais pas, sur ce qu'on veut.
Sur la pierre.
D'accord, c'est la pierre. D'accord. Non, mais je veux dire, mis à part le fait que le message est important, mais apparemment, comme on va voir dans le cours d'aujourd'hui, lorsqu'on parle des tables de la loi, c'est pas seulement le message qui est écrit dedans qui est important. Dans les tables elles-mêmes, il y a une kedusha particulière.
De la façon dont les lettres sont.
Oui, alors allez-y. Oui. Il y a plusieurs miracles. Plusieurs miracles.
Recto-verso. D'un côté comme
de l'autre. Recto-verso, expliquez-moi, ça veut dire quoi ?
D'un côté, quand tu voyais, tu vois la même chose dans le même sens.
Non.
Donc là, ça veut dire quoi ? Là, je vois, là, par exemple, Sobieski.
De l'autre côté, c'était marqué pareil, dans le même sens.
Ah.
Pas à l'envers.
Pas à l'envers, dans le même sens.
Ben, c'est pas un problème. Alors, on a gravé d'un côté, on a gravé d'un autre.
Non, c'est la même chose, mais c'est la même lettre.
Hein ?
C'est la même lettre.
Ah. Donc, ça veut dire qu'elles sont gravées.
À travers la pierre.
De bout en bout.
De bout en bout.
Bah oui, il faut préciser ça.
Les lettres, il y avait un contenu
oui.
Sur les quatre côtés.
Donc, vous me disiez plusieurs miracles. Donc, le premier miracle, vous me dites, c'est que tu le regardes d'un côté, c'est pile. Tu le regardes de l'autre côté, c'est encore pile.
Mais sur les quatre côtés,
d'accord, ça, c'est pas écrit. C'est les deux côtés. Deux côtés, c'est écrit. C'est les quatre côtés, c'est pas écrit. Ensuite, ensuite, qu'est-ce que Dan nous a dit? Vas-y, Dan, continue.
Les lettres
bonnes, oui.
Circulaires.
Par exemple.
Le contenu.
Alors, on va prendre. Donne-nous un exemple. Par exemple, sa mère. Donc, si vous voulez graver un sa mère, comment vous faites?
Un même.
D'accord. Regardez, putain, j'ai un stylo, mais j'ai pas une feuille. Voilà, une feuille, j'ai pas de feuille. Merci. Parce qu'après, on va développer tout ça. Vous voyez? Voilà. Voilà. Ouais, non, c'est le contraire. Voilà. Et voilà. Bon, je suis pas dessinateur, hein. Voilà. Imaginez une lettre comme ça. Ça, c'est un samer, vous le voyez? Bon. Pourquoi il tient mon samer ici? Parce qu'il est écrit sur un support et que le support, en vérité, c'est pas creusé ici. Ok? Bah, très bien. Maintenant, imaginez que je vais creuser au milieu. Alors, en fait, c'est pas creusé au milieu. Je vais creuser là. L'intérieur, ça c'est creusé, d'accord? Et que non, justement, le rond il doit rester.
Ah d'accord, donc c'est
il tient tout seul.
Donc ça veut dire il peut pas tenir le rond normalement. Et d'ailleurs c'est pour ça comment ils font en général, ils vous font des barres, des petites qui sont exactement, ils sont obligés parce que ça tient pas sinon. Regardez, j'ai une lettre ici, d'accord? Je veux que au milieu il y a une boule qui tienne. Si tu creuses tout autour pour faire la fin de la lettre, automatiquement, elle tient pas à la boule. Comment, sur quoi elle tient? Donc en général, on va faire un petit filet là sur lequel on garde un peu de matière et c'est comme ça que ça tient. Mais le problème, c'est pas un problème, c'est un miracle. C'est que là, en l'occurrence dans les louchotes, ça tenait. Ça c'est un des miracles. Mais vous allez voir, il y a encore d'autres miracles. Il y a plein de miracles.
À moi, tout ça magnétique.
Magnétique, bah, c'est de la pierre. C'est de la pierre.
Rien ne touche. Et la pièce du milieu, c'est comme...
C'est un champ magnétique, il a raison.
Un champ magnétique.
Oui, d'accord. Bon,
un champ magnétique.
Si Dieu fait...
Comme les aimants. On ne parle pas de la manifestation du miracle.
Oui, après comment...
Ça peut être l'effet de l'aimant. Pierre magnétique, tu peux maintenir...
Je ne sais rien comment Dieu l'a fait. En tout cas, je sais que c'est de la pierre et que ça tient.
Tu prends un aimant.
Il y avait Majax, peut-être, aussi.
Non, c'était pas la météorite. Il y avait Majax, aussi, là.
Non, mais peu importe comment Dieu s'y prend.
Voilà, c'est un miracle, c'est tout. Ok. Alors, on y va. Donc, on va essayer maintenant. Donc, maintenant qu'on a développé ça,
le samer en majuscule, il s'écrit comme ça.
Je l'ai grossi là, je l'ai fait rond.
J'ai compris, mais c'est comme ça. C'est
comme ça, c'est comme ça. Bon, en tout cas, il y a le problème de la boule du milieu qui ne peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Et en plus, le pile et fesses, c'est impossible, ça aussi.
Impossible.
Ah, c'est pas possible.
On peut pas avoir la même chose.
C'est pas possible. Donc c'est pas compliqué, c'est pas possible.
La même lettre, tu peux pas l'avoir.
La même lettre, tu peux pas l'avoir d'un côté comme ça et de l'autre côté comme ça. C'est pas possible. D'accord.
Même le samer.
Même le samer. Parce que le samer, il n'est pas vraiment rond.
Comme ça,
pas... Non, c'est pas possible. C'est impossible. Je ne cherchais pas, c'est impossible. Alors, on y va. Aïta, donc, Shor Hasham ou Meloubéchet Vaseret Adibrot. Lorsque on était dans le Beth Amikdash, au Beth Amikdash, on avait l'Arche Sainte, dans laquelle il y avait les tables de la loi. Et dans les tables de la loi, qu'est-ce qu'il y avait écrit dedans? Les 10 commandements. Donc, Beyeter Se'et, Beyeter As, Begilui Rav Veatsumioter, j'accélère, hein, parce que j'arrive surtout au milieu de la page 414. Migiluya bechalot kotchei kodeshi shel malah bolamotelin. Maintenant, écoutez bien, regardez ce qu'il nous dit ici en préambule. Il dit, il faut bien comprendre que la kedusha qu'il y avait dans les louchot est une kedusha qui dépasse de loin la kedusha qu'on peut trouver dans les sphères célestes les plus élevées. Ça veut dire qu'il y avait une kedusha extraordinaire. C'est pas seulement qu'il y a une partie d'en haut qui est descendue en bas. C'est une kedusha qu'on trouvait en bas, qu'on peut pas trouver en haut. Alors là, il faut qu'on s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? Alors, on va prendre point par point. On va commencer d'abord par les 10 commandements. Après, on va parler du support. Ok? Ah, s'arrête à 10 brosses. C'est quoi les 10 commandements? Bon, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans les 10 commandements? Bon, je suis l'éternel ton Dieu, c'est important, très bien. Tu leur apprends l'autre Dieu par moi, c'est important. Bon, très bien. Pas voler, pas tuer, respecter le Shabbat, etc. C'est important. Mais en quoi ces mitzvot, on les rend des mitzvot capitales et importantes? Alors en fait, les Chachamim nous disent que dans la Aseret HaDibrot se cachent toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi? Ce qui est écrit ici. Qui a seret à Dibrot, je suis au milieu de la page 414, qui a seret à Dibrot, hen, klalut, kol à Torah kula. Car, les seret à Dibrot, les 10 commandements, sont la généralité de toute la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans les 10 commandements, vous avez toute la Torah. Alors, il y a plusieurs façons comment on retrouve ça. La façon la plus simple, c'est ce que vous avez lu tout à l'heure. Vous comptez le nombre de lettres des 10 commandements. Vous en trouvez 620. Et 620, c'est l'équivalent de la valeur numérique 613 plus 7. Puisque nous avons 7 lois rabbiniques. Comme lire la Megillah Purim, comme Hanouka, etc. C'est 7 lois rabbiniques. Et donc, 613 plus 7, ça fait combien? 620. 620, valeur numérique, Keter la couronne. Tavreshraf, Keter la couronne. D'accord? Mais on va aller un peu plus loin. Si vous voulez des livres, David, il reste pas mal. Non, mais comme ça, chacun est à l'aise. Je crois que tu m'as dit toi aussi, hein? Ah bah, tome 2.
Tome 2.
Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 613 mitzvot sont allusionnées dans les 10 commandements. Plus que ça. Plus que ça. Il est écrit dans la Gemara que ça veut dire quoi lorsqu'on nous dit que misé ou misem ketuvim, que les tables de la loi, tu pouvais les lire d'un côté, tu pouvais les lire d'un autre. Il y avait un miracle. À quoi il servait ce miracle finalement? Rappelez-vous le colosse, à quoi il servait ce miracle? Ce miracle, il servait de façon très simple pour te dire la chose suivante, écoutez bien. Pour te dire que quoi que tu vas découvrir dans la Torah aujourd'hui en 2017, c'était déjà écrit dans les 10 commandements, dans les tables de la loi. C'était déjà là. C'est pour ça qu'on te dit, peu importe le côté d'où tu le prends, c'était déjà là. C'est le seul message. Miser ou miser, mketuvim. À tel point.
Mais le peuple, il a vu ça ou alors?
Non, on t'apprend la chose suivante. On te dit que tout ce qu'un élève va être mechadesh, même un chidouche qu'on va trouver aujourd'hui, c'était déjà donné au Mont Sinaï.
D'accord, mais c'est quoi ce besoin? C'est quoi ce besoin d'avoir une lettre qui se voit d'un côté comme de l'autre?
Non, ça c'est un message. C'est un message pour te dire que tout était là déjà. Ça veut dire, ne crois pas que, parce qu'en général, il y a une réalité, tu la vois d'un angle, tu vois quelque chose, tu la vois d'un autre angle, tu vois autre chose, tu la vois d'un autre angle, tu vois autre chose. Donc, tu aurais pu dire, voilà, la Torah, on l'a reçue d'un certain angle, il y a 3300 ans, aujourd'hui, on va apprendre à la voir d'un autre angle. D'accord. Et là, on te dit, il n'y a pas un autre angle. Dieu, il a déjà pensé à tous les angles. Et le nouvel angle que tu vas trouver, et qu'on t'encourage à trouver, c'est bien que tu trouves, il était déjà là. Tout était déjà là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est que dans les 10 commandements, en vérité, il y a toute la Torah. Plus généralement, en vérité, dans les 10 commandements, les 2 commandements principaux, c'est les 2 premiers. Hein, 2 secondes, j'arrive. Pourquoi les 2 premiers? Le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Deuxième commandement, « Tu n'auras point d'autre Dieu à part moi ». Si on réfléchit bien, ces 2 commandements sont la base de toutes les mitzvot positives et toutes les mitzvot négatives. Si tu acceptes que je suis l'Éternel, ton Dieu, que Dieu est mon Dieu, donc automatiquement, je vais faire tout ce qu'il me demande. Donc il doit me mettre les tefillines, je le mets. Il doit me faire le Shabbat, je vais. J'accepte qu'il est mon Dieu. Et si tu acceptes, tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Ça veut dire que tu n'auras point d'autre volonté à part moi. Donc automatiquement, j'accepte toutes les mitzvot négatives. Ça veut dire que toutes les mitzvot, l'intégralité des mitzvot, est allusionnée dans les 2 premiers commandements. C'est-à-dire dans les 10 premiers commandements, et dans ça même si on fait un zoom dans les 2 premiers commandements, dans ça même si on fait encore un zoom dans le premier commandement, et si je fais encore un zoom dans le premier mot des 10 commandements qui est Anochi. D'accord? Anochi, comme je vous ai dit l'année dernière, qui est un mot en égyptien, qui montre que Dieu descend dans la matière. Et si on veut faire encore un zoom dans le Aleph de Anochi. Dans le Aleph de Anochi, tout est là. C'est-à-dire, si vous voulez, après, on dézoome. D'accord. Donc, au début, Dieu lui donne le Aleph de Anochi, après Anochi, après le premier commandement, après le deuxième, après le troisième, après les 10 commandements, etc., etc., etc. Et après, ça se développe sans fin. Mais en vérité, tout est inclus dans la première lettre des 10 commandements. Aleph. Après, on peut même aller encore plus loin. Le Aleph, on peut le décomposer en 3. Dans l'Aleph, vous avez un Yud en haut, un Yud en bas et une barre.
Un Yud?
Oui. Le Aleph. T'as une sorte de Yud en haut, un Yud en bas et une barre. Donc, dans le Aleph même, le Yud, c'est... C'est ce qui est le plus fort. C'est-à-dire, on peut tout décomposer. On peut tout décomposer. Et de la même façon, dans les 10 commandements. Alors, les 10 commandements, dans Aseret HaDibros, ce qu'il nous explique, c'est la Mourah Zaken, il nous dit que les 10 commandements sont toute la Torah. Et c'est là qu'on commence à comprendre la particularité. Parce que, regardez, imaginez que je vais ouvrir un livre. Bon, je vais ouvrir un livre. Est-ce que je peux dire que dans ce livre, tout est écrit? Non, c'est pas possible, tout est écrit. D'abord, c'est une façon de voir les choses. Je prends par exemple une Mishnah. Je demande une Mishnah. Voilà, le traité, ma colle qu'on vient de terminer au cours du lundi matin. Ok, bon, très bien. C'est un traité, il est intéressant, on l'a terminé, etc. Mais il n'inclut que les sujets qui ont été traités. Il n'inclut pas le reste, on est d'accord. Ça veut dire qu'il parle de cas spécifiques, de personnes qui ont fauté, la teshuvah, enfin, des choses comme ça. Donc ça parle de cas spécifiques. On n'a pas parlé du Shabbat, hein, pour ceux qui étaient là lundi matin. Est-ce qu'on a parlé du Shabbat? Non, ça ne parle pas du Shabbat. Ça veut dire qu'en général, tous les textes que nous avons, même si c'est les textes de Torah, sont les textes qui sont forcément limités. Ils sont limités à un sujet spécifique. Un sujet spécifique qu'on peut développer à l'infini, mais c'est un sujet spécifique. La particularité des Aseret HaDibrot, c'est quoi? C'est que dans les Aseret HaDibrot, il y a toute la Torah. Ça veut dire, regardez la force de ce que Dieu a fait. En fait, Dieu avait entre guillemets un problème. D'un côté, il voulait nous donner directement toute la Torah. Mais d'un autre côté, il sait qu'on est incapable de parler avec lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution, Dieu? Il a dit, je vais leur donner les deux premiers commandements. Vous savez que Dieu nous a donné à nous que deux commandements. Et après, on sait, à chaque fois on mourait, deux fois on est mort, on a ressuscité. Et donc après, Dieu il a dit, bon ben dans ce cas-là, les autres, je vais les donner. C'est nous qui avons dit à Moshe Rabbeinu, écoute, à toi là. Donc on va s'arrêter là. Et après, c'est Dieu qui a parlé à Moïse, Moïse nous a répété. D'ailleurs, au passage, c'est la raison pour laquelle on dit, Torah tivalanu Moshe. Torah tivalanu Moshe. Moshe nous a ordonné la Torah. C'est Moshe ou Dieu qui nous a ordonné la Torah?
Apparemment, c'est vrai.
Alors, Torah, valeur numérique 611. Pourquoi 611? Il manque deux. Parce qu'il y a deux qu'on a entendu direct de Dieu. Donc si tu enlèves les deux, ça fait 611. C'est-à-dire que nous, Moshe, il nous a appris que 611. Mais il y a deux que Dieu nous a donnés. Pourquoi Dieu a choisi ces deux? Parce que dans ces deux commandements, il y a toute la Torah. Dans ces deux commandements, le premier et le deuxième, le premier, je suis l'Éternel ton Dieu, le deuxième, tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Dans ces deux commandements, tu as la base, tu as l'essentiel et tu as l'essence de tous les commandements positifs et négatifs. Et donc Dieu a gagné son pari quelque part. Parce que d'un côté, il voulait nous donner directement la Torah, mais d'un autre côté, on n'était pas en état de la recevoir. Alors qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit, je vais leur donner un condensé de la Torah. Et après, Moïse, il va leur développer, et après, les sages de toutes les générations vont développer. Mais ce qu'on fait, ce n'est que du développement. Tout a déjà été donné à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Il n'y a pas de nouvelle Torah. Ça n'existe pas. Et au passage, vous savez, chez les autres, ils disent que, comme il est écrit dans Isaïe, que lorsque Moshe viendra, Dieu, il dit, Torah Chadashem Meitit Etzé. Une nouvelle Torah sortira de moi. C'est écrit dans Isaïe. Donc eux, c'est pour ça qu'ils ont dit, il y a le nouveau, bon, voilà. Tu l'as dit. Alors. D'où ils ont sorti ça d'Isaïe? Parce que voilà, Isaïe, il a écrit que lorsque le Messie viendra, il y aura une nouvelle Torah. Mais en vérité, les commentaires disent, c'est faux. Pas du tout. Il n'y aura jamais de nouvelle Torah. Ça sera de nouvelles façons de comprendre, une nouvelle façon de comprendre la Torah, et ce sera une façon qui sera tellement nouvelle qu'on va dire, mais c'est une nouvelle Torah que je les envoie. Mais elle n'est pas nouvelle. Parce que tout ce que Dieu a donné au Mont Sinaï, ça fait 3300 ans, c'est valable jusqu'à la fin des temps, et même à la fin des temps, ça bouge pas, c'est immuable. Tout est déjà là. La question c'est, est-ce qu'on arrive à développer, à le trouver? Donc c'est là qu'on commence à comprendre que ces 10 commandements, c'est pas stam des paroles. Donc on croit que c'est stam des paroles, bon, elle a dit ne pas tuer, ne pas voler, etc. Bon, ok, pourquoi pas. Ces choses, quand on voit ce que les commentaires nous disent, on comprend que dans ces 10 commandements, en vérité, il y a toute la Torah qui était dedans. Toute la Torah. Tout le reste de la Torah était inclus dans cette, c'était un condensé de tout le reste de la Torah. Maintenant, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que ses paroles restent abstraites. Ça veut dire, bon, c'est les paroles qu'il a données, qu'on se transmet. Dieu veut aller plus loin que ça. Dieu, il veut qu'on grave ses paroles dans la pierre. Bon, très bien, on va graver les dans la pierre. Mais là, ce qui va se passer, c'est que la pierre dans laquelle Dieu va graver, c'est une pierre qui va devenir miraculeuse. Ça veut dire, de la même façon que les lettres que Dieu a prononcées, c'était des lettres miraculeuses, on a dit, tout était dedans, etc. Le même miracle qui s'est passé dans les lettres verbales va se reproduire dans les lettres écrites, d'accord? Le même miracle, ça veut dire qu'on va avoir, plusieurs miracles qui vont être autour de cette date de la loi, telle qu'on va l'expliquer.
Bah, de la différence entre les premières et les
deuxièmes. Alors justement, non, voilà, c'est pas la même chose. Là, je parle des premières tables de la loi. Dans les deuxièmes tables de la loi, il n'y avait pas les miracles qui avaient dans les premières. Tous ces miracles que je vous dis se sont passés que dans les premières tables de la loi. Mais on a gardé les débris des tables de la loi. Après, dans la deuxième table, dans le pshat, dans le sens littéral, Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de façonner lui-même. Il y avait une kedusha, mais ça n'a rien à voir. C'est pas des tables qui ont été façonnées par Dieu. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. D'accord? Donc on a deux choses. Il faut qu'on avance dans les studies du cours. On a deux choses. On a la particularité des 10 commandements, qui inclut toute la Torah, et la particularité des tables de la loi, qui apparemment sont une forme matérielle, spirituelle, matérielle. C'est matériel, mais c'est une matière miraculeuse. On va développer ça. Alors je crois qu'il y avait des questions avant, donc avec plaisir.
Mais ouais. L'interprétation que c'est de part en part pour que justement tout y est, et c'est basé sur quoi?
Bon, c'est une façon. Le miracle était là. Après, il faut se poser la question, pourquoi il y a un miracle?
Non, l'interprétation.
Voilà. Le miracle était là. Maintenant, on part de la base que Dieu ne fait pas de miracle pour rien. Il y a un message, forcément. Parce que les miracles, bon, il aurait pu faire le miracle que l'état de l'eau, elle danse aussi. C'est pas mal, ça. Ça aurait été pas mal, non? L'état de l'eau qui danse, elle descend et danse.
Depuis des siècles, on voit les choses évoluer, mais on n'arrive toujours pas à refaire ce que Dieu a fait. Par rapport à la pierre, par rapport à l'être. Là, on est au 21e siècle. Avec toute la technologie qu'on peut imaginer, qu'on peut. On a fait des choses. Ça, on ne peut pas le faire.
Ah, mais on quitte le matériel.
Pour lui montrer qu'il est au-dessus de tout.
Quoi. Oui, bien sûr. On quitte complètement le matériel. Et en plus, on ne peut pas réinventer. On ne peut que développer la Torah. C'est très important à comprendre ça. On ne fait que développer. On ne fait que développer la Torah.
Juste une petite question.
Oui, allez-y.
Vous avez dit, concernant les deux premiers.
Commandements.
Les deux premiers commandements. Tout est concentré dedans, ça veut dire à partir du moment où vous acceptez mon unicité, vous acceptez mes commandements.
Bah oui.
Obligé de
le Midrash donne un exemple. Il dit c'est comme une fois un roi qui est venu. Il est venu, il a gagné une guerre, et il est venu voir les habitants du nouveau pays, et il a commencé à leur donner des décrets. Ils n'ont pas écouté les décrets. Ils ont dit qui tu es, toi? T'as gagné une guerre, tu me donnes des ordres, je te connais pas, t'as pas accepté comme roi. C'est pour ça que le roi, il a compris. Il a dit d'abord, il faut que je leur fasse accepter ma royauté, ma souveraineté, que c'est moi le roi. Et une fois qu'ils auront accepté que c'est moi le roi, après je peux leur dire ce que je veux. Donc de la même façon par rapport à Dieu.
Alors justement, donc, en acceptant la royauté divine, l'unicité divine, on accepte les pratiques religieuses.
On accepte que je dois, ça veut dire, j'accepte qu'il y a un Dieu, donc j'accepte que je dois écouter ce qu'il me dit, quoi.
Voilà. Maintenant, mais la réciprocité, elle n'est pas non plus évidente parce que, prenons un juif lambda. Moi, je ramène toujours des choses très terre à terre. Un juif lambda qui est profondément croyant, qui croit profondément en Dieu, mais qui ne va pas peut-être mettre ses films tous les jours, ou qui ne va pas... Est-ce que ça remet en cause
non.
son judaïsme et toute sa croyance?
Non. Mais évidemment, ça ne remet pas en question. Ça ne remet pas en cause. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'accepte réellement... Parce qu'en général, ce n'est pas une acceptation, c'est une foi qu'on a en nous innée. Mais si j'accepte réellement la souveraineté de quelqu'un, bah, automatiquement, je fais ce qu'il me demande. Si je subis la souveraineté de quelqu'un, dans ce cas-là, bon, je ne l'écoute pas. Devant lui, je fais ce qu'il me demande, derrière lui, je fais ce que je veux. Si j'accepte profondément la souveraineté de quelqu'un, je fais ce qu'il me demande, même quand il n'est pas devant moi.
Et si je dois écouter ce que tu dis, ça voudrait dire qu'il n'y aurait que des juifs tzadikim qui pourraient accepter la souveraineté
d'Akadosh. Non, encore une fois.
Accepter la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu, savoir la conscience qu'il est là et qu'il t'a dit de faire X, Y, Z, 613 mitzvot et que tu dois les faire.
Je vais t'expliquer. Les tzadikim arrivent à accepter la souveraineté de Dieu sur tous les domaines de leur vie. Nous, on n'arrive pas à le faire sur tous les domaines de notre vie. On arrive à le faire sur certains domaines, sur le Shabbat, sur les fêtes, sur les mitzvot, mais il y a des mitzvot où on n'arrive pas à accepter la souveraineté de Dieu. Tu comprends? Le rachat, il n'accepte pas du tout la souveraineté de Dieu, sur rien. Ouais, le tzaddik, il accepte surtout. Après, c'est des pourcentages.
D'accord,
c'est des niveaux. C'est-à-dire, tu as accepté que Dieu est roi, jusqu'à combien tu es prêt à accepter ce qu'il te demande? Combien de fois on a ça dans les entreprises? Quand vous avez un nouveau patron qui s'installe, un nouveau patron. Bon, ils font des fois c'est à la mode, ils font des remaniements, ils te mettent un nouvel énarque qui est en haut de la... Bon, ils te mettent un nouveau patron. Maintenant, la question est la suivante. Prenez un employé qui est là, qui est, on va dire, 3 ou 4 niveaux en dessous dans la chaîne. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait, cet employé? Il fait ce que le patron il veut de lui ou il fait ce qu'il a envie?
C'est pas trop
dur. Ah, c'est pas sûr, ça.
Non, d'un point de vue patron,
Ah oui? Devant le patron, il fait ce que le patron demande. Ça veut dire qu'il va montrer au patron la façade qu'il a envie de montrer. Mais derrière la façade du patron, quand c'est des choses que le patron ne peut pas savoir.
Il fait ce qu'il veut.
Il fait ce qu'il veut.
Il ne peut pas savoir.
Donc ça veut dire.
C'est la nature humaine. Hein.
Donc ça veut dire qu'il n'a pas accepté la souveraineté du patron. Non, ça veut dire que tant qu'il est devant lui, bon, on lui donne une façade. D'accord, monsieur le PDG. Mais dès que, si je sais que c'est quelque chose qu'il ne pourra pas savoir.
Que lui se croit plus grand que le patron.
Non, ce n'est pas qu'il soit plus grand. C'est qu'il dit, c'est pas mon souverain.
Il a sa part d'autonomie.
J'ai ma part d'autonomie. Voilà, c'est la même chose par rapport à Dieu. C'est la même chose. C'est-à-dire, jusqu'à combien je suis prêt à laisser Dieu diriger ma vie. Voilà.
Il a sa part d'autonomie.
C'est exactement une autonomie. Alors, il y avait d'autres questions parce qu'après on va avancer. Oui, allez-y. N'hésitez pas, hein, comme ça j'essaierai d'incorporer aussi les réponses à toutes ces questions dans la suite.
On va avoir besoin de m'enseigner les 8 autres commandements sur la pierre. Si j'ai appris les deux, j'aurais plutôt compris.
Parce que les deux premiers commandements, c'est juste le début. Après, il y a un développement, le début du développement. C'est-à-dire, dans les 10 commandements, tu as la base, qui est la lettre Aleph, Anochi, premier commandement, deux commandements, ça c'est la base, et le début du développement. Mais il s'arrête là. Il s'arrête à 620. Pour te dire, voilà, il faut aller jusqu'à 620. 620, si on a dit, c'est les 620 mitzvot, 613 plus 7. Après, Dieu dit, moi je m'arrête là. Après, c'est à vous de développer la suite. C'est à vous de développer avec ce que je vous ai donné. Dieu nous a tout donné, mon Sinaï. Il nous a donné les mitzvot, avec les principes, et après il dit, maintenant vous pouvez développer.
Que les autres,
oui, bien sûr. Après, on va s'arrêter sur la particulière de chaque commandement. Je ne sais pas si on aura le temps.
Mais ils sont surtout concrets, puisque ça rentre dans la vie de tous les jours.
Oui, mais.
Il faut questionner les autres pays avant pour savoir si je vous donne ça, il ne faut pas voler. Ah, bah non, on ne peut pas. Si on vole pas.
Certainement que c'est des lois importantes. Certainement que c'est des lois importantes, mais bon, je reviendrai. Parce que, par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, bon.
Respecter, mais tout ça, les
c'est pas. C'est exactement, c'est pas quelque chose sur le. Dieu, il parle, tu t'attends, il va te sortir un grand message, tu vois, il dit, bon, tu ne vas pas voler. Bon, d'accord, mais.
Dans les 10 paroles qu'il a données, il y en a qui disent 10 paroles de ce qu'il dit de.
Ah non, c'est les 10 brotes, c'est les paroles. Hein.
Je sais pas, on est bien d'accord. Donc, il y a des droits et des devoirs qu'on doit suivre par rapport à ce qui est énoncé dans les 10 paroles.
Dans les 10 paroles, c'est que des devoirs.
Que des devoirs, il n'y a pas de droits.
C'est que les devoirs.
Devoirs, bon.
Non, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on les appelle en français commandements. C'est un raccourci, mais c'est vrai. Ouais.
J'ai le droit d'accepter et j'ai le devoir aussi de faire les choses. C'est en ce sens-là que. Parce que j'avais lu un commentaire.
Non, ça veut dire comme. Oui, attends, non, je commence à vous le dire.
Je trouverais le Rav qui avait dit ça, il m'avait expliqué qu'en fait, ils étaient classés, ils étaient répertoriés entre ce qui est donc obligation, le devoir, et après le droit qui se colle à ce devoir-là.
Bon.
Il y a un parallèle entre.
Là, a priori, c'est les commandements. On va avancer un petit peu. Oui.
Moi, c'est pas un lien direct avec le sujet, mais avec les débris. Finalement, c'est la.
Parce que.
Des présents.
Il y a plusieurs.
Débris, il y a plus de...
Bien sûr, justement.
Il n'y a plus de miracle là-bas à l'intérieur.
Justement, il y avait le miracle toujours.
Ah. Même dans le débris.
Dans le débris.
Donc il y a un fragment de.
Un fragment, tu vois, le décodé.
Ça veut dire qu'il y a plus de Kedusha.
Il y a plus de Kedusha dans le débris que dans les deuxièmes.
Oui, ça d'accord.
Et il y a une très grande symbolique. Il y a une très grande symbolique du fait de garder les débris. D'abord parce que les débris, ils ont été créés par Dieu. Alors que les deuxièmes n'ont pas été créés par Dieu. En plus, dans les débris, il y a un miracle qu'il n'y a pas dans le deuxième. Plus que ça. Mais il y a aussi une symbolique. La symbolique, c'est que la Gemara te dit, lorsque tu vois un Talmid Chacham qui vieillit, un sage qui vieillit, et tu as l'impression qu'il est devenu un débris. C'est-à-dire que tu avais un grand sage, etc. Et bon. Et des fois, on pourrait être amené un peu le dédaigner. C'est-à-dire, bon, comme dans la société, quoi. De dire, tant qu'il est gaillard, on le prend, dès qu'il s'affaiblit, etc., ben, on le jette, on prend un jeune, on prend un plus jeune. Et la Torah, tu dis pas du tout. Tu dis, attention. Il faut jamais dédaigner les débris. Parce que les débris peuvent avoir plus de Kedusha que le nouveau, que la V2. Eh oui, c'est pour ça qu'on te dit tu as un ancien Talmid Chacham, c'est pour ça qu'on une fois on voit des situations comme ça. Tu as un ancien Talmid Chacham qui n'arrive pas à étudier, qui est très très malade, etc., mais on lui donne un kavod plus que les autres. Parce que c'est un débris. Mais être un débris chez nous, c'est pas forcément négatif. C'est comme le débris des tables. Bon, c'est comme ça, il est comme ça, mais il faut continuer à le respecter.
Donc, oui. Concernant les débris des tables, là, quand il y aura Hachem va les reconstituer ou pas?
Ça, je sais pas. C'est pas écrit ça. Je sais pas.
Donc, ça continue encore, le miracle dans les débris.
Ah oui, bah bien sûr, continue.
Comment se fait-il que Dieu, pour ce qu'il a créé, il a créé que pour les Juifs, par rapport à Torah et dix commandements, alors qu'il doit dominer avec le monde, l'ensemble. Comment ça se fait qu'il a fait spécialement la Torah que pour les Juifs? Et comment ça se fait qu'il ne s'est pas adressé, enfin, avec tous les autres, puisque.
D'abord, attendez, qui vous a dit qu'il a fait la Torah pour les Juifs?
Il l'a fait, mais
apparemment, il s'est.
Non, la semaine dernière,
j'ai dit commandement, non, mais j'ai entendu, non, mais jusqu'à maintenant, il dit commandement, ça ne concerne personne à part nous.
Pas du tout, c'est faux. C'est faux.
La maison d'en face,
les 10 commandements, bon, j'ai pas le temps de rentrer dans le texte maintenant, mais les 10 commandements ont été entendus par le monde entier, et c'est un message universel. Parce que, je vous ai expliqué, j'ai pas le temps de rentrer dans maintenant, peut-être pendant chaque voix, si on a.
Les nations, parce qu'on les entend,
non, attendez,
comme nous on fait.
10 secondes. D'abord, tout le monde connaît les 10 commandements. Est-ce qu'ils les font ou les font pas, c'est une autre question.
Bah,
vous parlez à.
C'était le créateur.
Attendez, deux secondes. Je vais expliquer. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'entre les 10 commandements de la paracha Yitro et la paracha Vaetranan, c'est que les 10 commandements sont répétés deux fois dans la Torah. Une fois dans le Chumash Shemot, et une autre fois dans la paracha Vaetranan, qui est censée être la répétition. Et pourtant, quand vous regardez les deux, il y a plusieurs différences. Il y a un problème. C'est une répétition. Comment dans une répétition tu peux avoir une différence? Il y a plusieurs commentaires qui s'assurent sur la question. Un des grands commentaires qui s'assurent sur la question, c'est le Kli Yakar. Et peut-être si on en attend Shavuot, on le fera pendant Shavuot. Je sais pas, j'ai beaucoup de choses à faire pour Shavuot. Et le Kli Yakar, il fait remarquer la chose suivante. Il dit que la différence entre les premiers commandements, ceux qui sont écrits dans la paracha Yitro, et ceux qui sont écrits dans la paracha Vaetranan, c'est que les 10 commandements dans la paracha Yitro, c'est les 10 commandements tels qu'ils ont été vus de façon universelle. Alors que les 10 commandements dans la paracha Vaetranan que Moïse nous répète, c'est les 10 commandements tels qu'ils ont été perçus par le peuple juif. Et il y a plusieurs nuances. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, dans les premiers commandements universels, on nous parle de nous souvenir du Shabbat. Alors que dans les commandements qui sont adressés aux juifs, tels que les juifs les ont perçus, on demande de garder le Shabbat. Ça n'a rien à voir. Souvenir qu'il y a un Shabbat. Bon, souvenir qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Mais garder le Shabbat, c'est une action. Autre exemple. Dans l'interdiction de la convoitise. D'accord? La convoitise de la femme, de l'objet de l'autre, etc. Alors, dans les commandements de la paracha Yitro, il est écrit, tu n'as pas le droit de convoiter. C'est quoi la convoitise? C'est faire des plans pour prendre ce qui ne m'appartient pas. Alors que dans les commandements de la paracha Vaetranan, qui explique comment nous on doit voir les 10 commandements, il est écrit, tu n'envieras pas ce qu'il y a chez ton prochain. C'est beaucoup plus difficile, ça. C'est même pas une convoitise qui est des plans pour prendre ce qu'il y a chez l'autre. Le fait même d'envier ce qu'il y a chez l'autre, c'est déjà sourd. Mais ça, Dieu n'a pas demandé de donation. Mais bon, je peux pas vous résumer en deux mots, parce que pratiquement sur chaque ligne des 10 commandements, il y a des différences.
Moi, j'ai lu les commentaires de Daquin, ils ont les 10 commandements, là, mais d'un côté. C'est très intéressant, c'est pas basé sur la loi, mais c'est très intéressant, hein, leurs commentaires. Mais ils les ont gardés, hein. Mais ils en ont pas.
Ah non, c'est connu les 10 commandements dans le monde.
Ah, bien sûr,
ça marche pas l'unisson.
Évidemment,
pourquoi pas tous les jours comme nous, comme Shabbat.
Oui,
une fois par an, dire voilà.
Bon, ils l'ont pas respecté, très bien.
Mais voilà, mais si t'es le patron, si t'as créé le monde, pourquoi tu l'as créé comme ça?
Regardez le message des 10 commandements et vous allez voir que les 10 commandements, c'est un message universel. Il y a rien dans les 10 commandements qui ne s'adresse pas à tout le monde. Il n'y a rien. À part le Shabbat, mais comme on a expliqué, pour les nations, le Shabbat, ils n'ont pas de mieux de respecter le Shabbat. C'est juste un souvenir. C'est-à-dire, eux, ils doivent se rappeler, quand ils arrivent le samedi, ils doivent se rappeler que Dieu a créé le monde en 6 jours et que c'est mis se reposer. Juste, ils doivent s'en souvenir, c'est tout. Il n'y a pas d'action. Voilà. Mais, non, mais ça veut dire que tout le reste est universel. Croire en Dieu, ne pas avoir l'autre Dieu, ne pas faire d'image, de forme à l'image de Dieu, ne pas voler, ne pas tuer, c'est universel, ça. C'est pas vachement universel. Bon. Continuons sur le Louchot. Il y a d'autres questions? Oui. On va s'arrêter. Oui? Allez-y.
C'est une remarque.
Allez-y.
Petite remarque.
Ah, bon, c'est la remarque.
Petite remarque. Hein. Par rapport aux débris.
Les débris.
Ben, le débris, il vient de la culture. Il vient de quelqu'un de cultivé par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure.
La culture.
Celui qui connaît, à un moment donné, il vieillit.
Ah oui, d'accord, dans la symbolique, oui.
Il devient un débris.
Oui.
Mais ce débris-là, justement, c'est pas un débris. C'est quelque chose qu'on peut mettre en culture et qui fabrique quelque chose à nouveau.
Bien sûr.
C'est pas du débris.
C'est vrai.
C'est ce qu'on pourrait imaginer du débris. Ben non, en réalité, c'est quelque chose qui produit.
C'est la décomposition qui produit.
Qui produit.
Comme une graine. Oui, c'est vrai. Très juste. Très juste.
Razak.
Bon.
Allons-y.
Alors on continue. Qui a Seret à Dibrot, Enklalout. Alors on va passer à la page 415. Donc voilà. Donc vous voyez, progressivement on avance. Hein, progressivement on avance. D'abord on a expliqué, pour résumer, on a expliqué que dans l'Arche Sainte, il y avait, qui était dans le Saint de Saint, l'endroit le plus saint du Beth Amikdash, qui est aujourd'hui caché quelque part sous terre, il y avait principalement l'Arche Sainte. Et dans cette Arche Sainte, il y avait les tables de la loi et les débris, comme on a expliqué toutes les nuances. D'accord? Maintenant, sur les tables de la loi, il y avait écrit les 10 commandements. On a expliqué la symbolique des 10 commandements. Que c'est 620 lettres, et qu'il y a 2 commandements, qui incluent tout, qu'on a entendu directement de Dieu. Ça, c'est ce qui est écrit sur le support. Maintenant, on va s'arrêter sur le support. Le support, c'est de la pierre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce support? Alors là, on y va. Ugdel echakikan, page 415. Ugdel echakikan, beluchot avanim gashmim. Afin de graver ces 10 paroles exceptionnelles. Afin de les graver dans 2 pierres matérielles. Lo yardam y madrigal et madrigal keder shel shelut alamot adolamaze agashmi. Très grand chidouche, j'explique ici. Vous avez déjà entendu parler de l'enchaînement des mondes?
Non.
L'enchaînement des mondes. Alors je vais vous expliquer une notion très importante de Kabbalah. Ce qu'on appelle Ishtal Shelut. La Kabbalah explique la chose suivante. Elle dit que quand tu veux passer du spirituel au matériel, tu peux pas passer directement du stade spirituel au stade matériel. Il faut passer par un enchaînement, ça veut dire par des niveaux, des voiles, jusqu'à qu'après on arrive à la matérialité. D'accord ? C'est-à-dire que c'est pas radical, c'est pas directement on prend du spirituel, on transforme en matériel. On passe par plusieurs voiles, par plusieurs passages, par plusieurs rétrécissements, par plusieurs adaptations, et on réduit, jusqu'à la fin, on a une énergie qui est matérielle. Tout ça, ça vient du spirituel. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez autour de nous, tout ce qu'on a autour de nous, vous prenez par exemple la bouteille, la table, etc., c'est une énergie spirituelle qui est passée par plusieurs passages, jusqu'à la fin, ça devient un objet matériel. Sauf que la particularité des tables de la loi, c'est que les tables de la loi ne sont pas passées par cet enchaînement. Directement de la spiritualité, c'est le seul objet dans le monde qui est comme ça, directement de la spiritualité, Dieu est il a amené ça dans la matérialité. C'est-à-dire qu'on a appris un concept spirituel, une lumière spirituelle, et on l'a intégré directement dans la matérialité. Ce qui est impossible normalement, parce que normalement ça explose. Hein, bon, ça explose. C'est ce qui s'est passé à la création du monde. À la création du monde, qu'on appelle la brisure des vases. C'est qu'il y avait une énergie trop forte par rapport au monde, donc ça a explosé. Si tu prends là, si tu vois ce téléphone, bon, l'énergie qu'il peut recevoir, c'est du 5 volts.
Ah, oui,
d'accord. Et pourquoi je prends, on appelle ça un chargeur, mais c'est pas un chargeur en vérité. C'est
un transfo.
Exactement. Parce que le courant, il est là, mais si je prends deux fils directement d'ici et je les mets là, mon téléphone, il est mort. D'accord? Donc je prends ce que j'appelle un chargeur qui est en vérité un transfo, qui va transformer le courant 220 en 5 volts. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que pour toi, mais non, ce qui peut le plus, le moins, ça marche pas comme ça. Il faut que ce soit adapté. Donc, si tu as une énergie qui est trop puissante par rapport au support, ça explose. Donc lorsque Dieu a créé le monde, au début, l'énergie était trop puissante. Donc ça a explosé, mais ça, je rentre pas dedans. Ce qu'il y a de particulier dans l'étape de la loi, c'est que dans tous les autres objets qu'il y a dans le monde, l'énergie a subi une transformation progressive. C'est-à-dire progressivement, transforme, fait qu'à la fin, on a un objet matériel. Alors que dans les louchotes, il n'y a pas eu cet enchaînement des mondes. Directement, tel que c'était en haut, c'est descendu comme ça, avec cette même kedusha. C'est pour ça qu'on retrouve des miracles spirituels dans un objet qui est purement matériel. Mais on va aller plus loin que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ki olam hazeh hagashmi mitnaheg beitlabshut hateva hagashmi. Ce monde matériel se comporte par le biais de ce qu'on appelle le vêtement de la nature matérielle. Ça veut dire encore une fois, notre monde a des règles. Notre monde se comporte avec des règles spécifiques. C'est quoi ces règles ? C'est les règles de la matérialité. C'est les règles qui font qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Voilà, une lettre, elle peut tenir, une lettre, elle peut pas tenir. Une lettre, elle a un sens, une lettre, elle a pas d'autre sens. C'est des règles. C'est des règles qui sont régies par la logique. Mais c'est par la physique, etc. Pourquoi ? Parce que c'est quand on descend, il y a des règles. C'est comme ça. Cependant, ve'alouchot, les louchot, ma'ase Elohim emma. Le support des louchot, donc la pierre, ce sont des tables qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi que c'est l'œuvre de Dieu? Tout est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu? C'est Dieu qui a créé ça. Oui, c'est Dieu qui a créé ça. Mais sauf qu'avant d'arriver à la bouteille, on est passé par plusieurs enchaînements. Donc, du coup, maintenant, cette bouteille est régie par la loi de la physique, qui sont aussi créées par Dieu, mais il y a plusieurs enchaînements. Alors que les tables de la loi, pourquoi on dit dans les 10 commandements que les tables de la loi sont écrites directement par Dieu, sont écrites par Dieu? Parce que il n'y a pas eu cet enchaînement, c'est directement un support spirituel.
Producteur ou consommateur.
Direct, sans passer par. On est parti sur l'usine. Alors, Mirta Elohim hu, shel mala me'ateva shel olam hazeh hagashmi anishpa me'arat hashchina shebechal kodesh hakodesh hadasiya shemimenu nimshach or vechayut olam hasiya shegam olam hazeh bichlalo. Alors j'explique. En fait, ce qu'il explique ici, c'est que dans l'arche sainte, nous avons, d'accord. Une lumière particulière qu'on n'a jamais eue et qu'on n'aura jamais dans aucun autre objet. À tel point, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les Pirkei Avot, le chapitre 5 de Pirkei Avot, à un moment, là-bas, on parle de 10 choses qui ont été créées par Dieu juste avant l'entrée du Shabbat. 10 choses. Juste avant l'entrée du Shabbat de la création. 10 choses. Et alors, il y a des choses intéressantes, et parmi ces choses-là, il y a deux choses, Aktav et Amirtav. Aktav, l'écriture, Ve'amirtav et le support. Quelle écriture, quel support, de quoi on parle? Alors nous, on croit, on s'imagine qu'il a créé papyrus, il a créé, etc. Pas du tout. C'est pas de ça qu'on parle. Ça, Dieu n'a pas besoin de le créer à l'entrée de Shabbat. Aktav ve'amirtav, vous dites le commentaire, c'est quoi? C'est l'écriture qui sera utilisée dans l'étape de la loi. Et le support, la matière du support qui sera dans l'étape de la loi. Dieu a créé ce concept qui a été appliqué qu'une seule fois dans tout le monde. C'est une écriture particulière, qu'on peut même pas comprendre. C'est une écriture qui est matérielle et spirituelle en même temps. cette écriture et cette façon de supporter, donc d'être le support de cette écriture, ça a été créé par Akadosh Baruch Hu depuis la création du monde, depuis juste avant Shabbat. C'est-à-dire depuis là, Dieu l'a mis dans les casiers et dit voilà, le jour où on devra donner la Torah, c'est prêt. Il y a l'option écriture particulière.
Il y a le bouton.
Il y a le bouton. Écriture particulière, support particulier. Et ça, il n'y a eu qu'une seule fois dans l'histoire. C'est jamais reproduit. Même le deuxième texte de la loi, ce n'est pas reproduit. J'ai dit, moi, je ne le fais qu'une fois.
Juste une petite pour être concret.
Oui.
C'est-à-dire que, donc, il y a cette fameuse arche, il y a les débris, il y a les tables de la loi. Il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient approcher de
ça. Ah non, pas du tout. Attends, je veux dire. Alors.
Au niveau pratique,
comment. D'abord, au niveau pratique, au niveau.
Est-ce que pendant les fêtes, ils les sortaient? Est-ce que le peuple.
Pas du tout. Personne ne les voyait.
D'accord.
C'était caché. Et je vais vous dire plus que ça. Même parmi les Kohanim, il n'y avait que le Kohen Gadol qui rentrait. D'accord. Il rentrait dans le Saint des Saints une fois par an, enfin un jour par an, il rentrait quelques fois pendant cette journée, qui était le jour de Kippour. Et normalement, on lui interdisait de toucher l'Arche Sainte. Il devait être autour, mais il ne touchait pas. C'est-à-dire...
Hein, l'apprendre alors, ces Arches Saintes.
Et les anneaux transportés.
Non, parce que à l'époque où les Philistins arrivaient, on n'avait pas encore le Temple à Jérusalem. Donc, quand on n'avait pas encore le Temple à Jérusalem, on partait en guerre à chaque fois avec. Mais une fois qu'on a eu le Temple à Jérusalem, on a dit on doit la laisser à l'intérieur, on ne peut plus la toucher.
Non, mais si c'est... Kodesh comme ça, au point où le Kohen Gadol il peut rentrer qu'un certain nombre de temps et qui, je ne sais pas s'il a le droit.
On dit que comme les Juifs n'étaient pas méritants, Dieu les a punis, qu'on les a pris ça en captivité. On a subi ça comme une captivité. Hein. C'est écrit Nishba Aaron Hashem. C'est-à-dire qu'on a subi ça comme si on avait pris en captivité un tzaddik ou voilà. On a subi ça comme ça s'appelle une captivité. Enfin, c'est un objet. Non, c'est pas un objet, c'est une captivité. C'est une kedusha extraordinaire. On n'a même pas idée de la kedusha que c'était. Kedusha extraordinaire. Et ça, c'est la kdusha de l'Arche Sainte. Donc, je disais, on n'avait pas le droit de toucher, et même pour nettoyer, parce que le Saint des Saints, il fallait bien le nettoyer. Vous savez, ça prend de la poussière. Il faut bien le nettoyer, comment on fait pour faire la poussière?
Il était dans la boîte, il pouvait pas prendre.
Oui, j'ai compris, mais l'Arche Sainte, enfin, je veux dire, tout le reste, il faut les murs, il faut nettoyer, comment tu nettoies?
Le tabernacle.
D'accord? Le tabernacle. Mais vous savez comment on fait? Il y avait des Kohanim qui passaient par le plafond, qui étaient avec des cordes suspendues d'en haut, et il n'avait pas le droit de toucher le sol. Parce qu'il y a un principe qui dit que tant qu'il ne touche pas le sol, s'il touche que les murs et pas le sol, ça va. Donc, ils étaient avec des cordes suspendues pour nettoyer les murs. Alors, même en bas, ils devaient nettoyer, je sais pas comment ils faisaient, pour,
Quand on est kedusha comme ça, et des Philistins, ils prennent le truc comme ça.
C'est pour vous dire, ça. Et avec ça, ils touchaient même pas l'Arche Sainte. C'était juste pour faire la poussière des murs. Comme ils n'avaient pas le droit de rentrer, donc ils les avaient passés par en haut, et ils restaient suspendus dans les airs et ils nettoyaient comme ça. Comme on fait aujourd'hui pour les tours, etc. Hein.
Ouais, non,
ah oui, non, moi je parle pour le. Ah, c'est énorme!
Ah oui, ceux qui font les rondes,
oui, oui, bien sûr! Ah, bah, c'est pour vous dire la doucha qu'il y avait! C'est.
Ça va?
On n'a jamais vu un objet aussi saint que ça. C'est l'objet le plus saint du monde. Je vais dire, regardez. On va essayer de voir les choses clairement.
Mais quand il transmettait dans le désert.
Regardez, non, mais c'est très simple. Regardez, un juif aujourd'hui, notre cœur est dirigé vers où? Vers Israël. En Israël, il est dirigé vers où? Jérusalem. Jérusalem dirigé vers où? Le mont du Temple. Le mont du Temple dirigé vers où? Le Temple. Le Temple est dirigé vers où? On dirige, d'accord? D'accord? La bâtisse avait le Kodesh et le Kodesh au Kodeshim. Dans ça, tu vises où? Le Saint des Saints. Et dans le Kodesh, tu vises quoi? L'Arche Sainte. Dans l'Arche Sainte, tu vises quoi? Les tables de la loi. C'est-à-dire que les tables de la loi, c'est le centre du monde. Voilà. Pour un juif, les tables de la loi, c'est le centre du monde.
Centrale nucléaire.
T'es pas où aller, c'est ça? On fait bien une prière, non? On dirige. Tu diriges. Bah, quand tu zoomes, tu tombes sur l'étape de la loi, tu tombes sur le Aleph de Hanouri. T'es là-bas quelque part. C'est fou. Et au point que le monde ne peut pas tenir s'il n'y avait pas l'étape de la loi dans le monde. D'accord?
Oui.
Allez-y.
Le cheminement là, que tu viens de faire là, tu vas faire un cheminement qui est assez important pour en arriver si tu veux. Mais. Au départ, ceux qui ne sont pas en dedans, ceux qui sont à l'extérieur de ça, comment la question que je me pose, moi, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à leur faire prendre conscience et que ça prenne un sens pour eux,
ah, oui.
Qu'il y ait ce chemin-là, justement. Parce que tu décortiques là, comme ça, mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est pas ceux qui savent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas appris à savoir. On ne leur a pas appris ça.
Bon, ouais.
Et alors, qu'est-ce qu'on en fait, ça?
Mais déjà, il faut leur dire... Attendez, je vais vous répondre par une question. Je, non, c'est pas, c'est une question, moi.
Hein? Mais c'est notre question.
Je vais vous répondre par une question. Joseph, Joseph, écoutez ma question, s'il vous plaît. À qui appartient les tables de la loi?
Ça appartient au peuple élu.
Non, mais attendez, moi je veux des. À qui ça appartient? Ça vous appartient ou pas?
Oui, je fais partie à ceux qui appartiennent, oui. Oui, j'ai
donc vous êtes actionnaire. On est actionnaire, on a des dividendes. Hein, on a des dividendes dans l'état de la loi.
J'ai un droit sur l'état de la loi.
Vous avez un droit. Très bien. Donc, ça c'est la réponse. Ça veut dire, on lui dit, je suis pas en train de te raconter une histoire antique qui s'est passée il y a 300 ans. Je te raconte ton héritage qui est le tien, qui est ton histoire.
C'est mon héritage.
Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut parler à quelqu'un qui est loin. Je suis pas en train de te vendre un produit. Je suis en train de te raconter qui tu es. Ah, le gars, il dit, ah. J'en ai déjà eu comme ça, des gars. Vous avez dit, ouais, ça m'intéresse pas, ça. J'ai dit, attendez, monsieur, je suis pas je vous vends un produit, là. Je vous raconte qui vous êtes. Ah. Et ça choque.
C'est ça.
Parce que tu l'as enquillé. Donc, je disais que l'étape de la loi, c'est un miracle qui a été créé depuis la création du monde. Donc, deux miracles. Le miracle du support et le miracle de l'écriture. On dit que c'est un support parce qu'il y a deux histoires là. Il y a d'abord le fait que la lettre tienne, il y a aussi le support qui est un support particulier qui était comme on l'a dit, comme on l'a dit pile et face. Et donc ça c'est un miracle. Alors bon, après évidemment, si on parle de l'étape de la loi, je voudrais m'arrêter sur un point important, c'est que il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de penser que l'étape de la loi avait une forme arrondie en haut. D'accord?
Comme dans le film.
Je crois qu'il y a un téléphone qui sonne. Alors que, comme dans le film, on n'en sait rien, bon. Alors qu'en vérité, quand vous regardez dans la Gemara Batra, page 16, page 15, page 16 là-bas, la Gemara dit clairement qu'elle était rectangle. Comme ça. Oui, rectangle. Rectangle. C'est deux rectangles, et les deux rectangles, l'un à côté de l'autre, formaient un carré. Et d'ailleurs, au passage, je sais qu'on aime bien dans les dessins aujourd'hui montrer, comme ça, tu vois, il tient une table là. D'accord? Mais en fait, a priori, tel qu'on voit dans la Gemara, les deux tables étaient l'une à côté de l'autre. Alors, c'est même pas parfait, mon exemple, parce qu'en fait, en vérité, il faut que les deux tables soient un rectangle qui forme un carré en tout. Deux rectangles qui forment un carré. Et attendez, c'est pas seulement ça. Et dans ce rectangle, vous devez avoir 620 lettres écrites. C'est pas mal, ça, hein. Parce que nous, quand on fait les... Ah oui, dans le carré. 620 lettres, les 10 commandements. Alors, ça, c'est une question, ça. Comment ça se passait? Ça, c'est une question. Est-ce que c'était.
5 et 5.
Est-ce que c'était 5 et 5, etc. C'est une question. Parce que le problème, c'est que la deuxième série, la première série de commandements est plus longue que la deuxième.
Voilà.
Donc, comment on fait? Ah, c'est une question. Bon.
Okay, d'accord.
La police de caractère, comment on fait, etc.
Ça déborde de l'autre côté.
Ah, bah oui. Comment on fait? C'est une question. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 620 lettres. C'est quand même, et ça fait environ cette taille. Voilà, ça. C'est pas très grand, hein, ça. Là, comme ça, là. Mais c'était très lourd. C'est du diamant.
Un diamant, c'était...
Impossible de tenir. Pourquoi on dit que les tables se sont cassées? Parce qu'on dit que c'était du diamant, et Moshe les tenait miraculeusement. Et dès qu'il a vu que les Israélites ont fauté, les tables sont devenues trop lourdes pour lui, donc du coup, elles sont tombées de ses mains.
Diamant ou rubis?
Un diamant particulier. C'est un diamant. C'est un diamant particulier. On dit que Dieu, il a laissé à Moïse prendre quelques... Il s'en a enrichi. Non, les débris, on les a mis dans l'Arche Sainte. Mais bon, Moshe, il a pris... C'est Dieu qui l'a dit. Il a dit, prends quelques souvenirs. Juste avec la poussière.
C'est un minéral, théoriquement, qu'on ne retrouve pas, nous, aujourd'hui, dans la nature.
Pas dans cette masse, c'est sûr que non.
Sous cette forme-là.
Pas sous cette forme-là et pas... Non,
autant.
Non,
mais
pas
dire, autant. Quand on vous dit du diamant...
On dit que c'est Sanferinone, il s'appelait. C'est une sorte de saphir, mais très, très, très cher. Que nous, on découvre en partie infinitesque. Hein.
Sous forme de...
Oui, ça existe, oui.
Ah,
ça s'appelle Sanferinone. Ah non, c'est une matière... C'est un diamant qui est très cher, mais c'est... On dit que ça avait toutes les couleurs, avec le soleil, etc. Plein de miracles.
Pas en bloc. J'entends bien, mais est-ce que Dieu a créé un minéral spécifiquement?
Non. Non, c'est écrit Sanferinone, c'est écrit. Rachid dit Sanferinone.
D'accord.
Voilà.
Oui.
C'est? D'où quoi?
Quand j'ai vu un. Il y a 620 lettres, il n'y a pas de tunature, parce que 620, comment ça?
Je sais pas comment.
Il n'y a pas d'où 620 lettres.
Non, parce que nous, quand on fait les tables sur les arches saintes, on te met juste Anori, après Bet, Gimel, Dalet, Evav, Zaïn. En fait, t'écris 620 lettres. Mais en vérité, il y avait 620 lettres.
Ah, d'accord.
C'est la réalité.
Oui, j'ai toujours vu.
Ah oui. Ça, c'est juste pour un symbole. Il y avait 620 lettres.
D'accord.
Ok. Mais encore une fois, je ne sais pas comment c'était réparti les polices.
Les deuxièmes étaient aussi de carré.
Les deuxièmes étaient à l'identique des premières, mais c'est Moshe qui les a taillées.
Voilà.
Toujours sur le même support ?
Même support.
Même support ?
Même support. C'était un support très très cher, mais c'était Moïse qui les a taillées.
Non, on ne peut pas tailler le diamant.
Non, enfin, c'était un support très très cher. C'est écrit que c'est un support très très, c'est un support très très cher, mais c'est Moïse qui l'a. C'est Moïse qui l'a.
Il y
en a qui disent au passage, parce que tu parles de table, il y a un avis dans la Gemara qui dit, si mes souvenirs sont bons, que je, pour revoir la question de seconde, que les deuxièmes tables, Dieu il a envoyé la pierre, ouais. Mais il a dit à Moïse, celle-là c'est toi qui grave. Donc c'est pour ça qu'il y avait encore un peu de gdoucha, tu vois, mais bon, la gravure c'est Moshe. Il y en a qui disent que c'est sur les deuxièmes pierres que Dieu aurait dit à Moshe, ce que tu découpes, tu prends les poussières.
Ah d'accord.
C'est pas sur le premier.
Il y a des grosses lettres.
Ouais,
des
et c'est plus logique.
C'est pas ouf, je crois.
C'est plus logique de dire ça parce que sinon tu dis les premières on garde tout.
Oui et puis les premières c'est Dieu qui l'a donc il y a pas les tarifs sont déchets.
Il y a beaucoup de parce que comme c'est pas écrit dans le chômage donc c'est ouvert à des explications, il y a plusieurs allusions donc on peut comprendre comme ça Voilà. Alors au passage puisqu'on n'est pas un miracle près, vous savez que l'arche sainte qu'on transportait partout où on allait dans toutes les guerres et partout où on allait, on dit qu'il y avait un miracle avec l'arche sainte. C'est que l'arche sainte transportait ceux qui la portaient.
Ça veut dire qu'il la portait pas.
Ça veut dire en d'autres termes. Parce qu'il fallait dans le désert, il fallait la transporter. D'accord. Il fallait la transporter dans le désert. Ça pesait. Alors on dit, Moshe, il dit mais comment il va le porter? C'est impossible. Dieu lui dit, écoute, tu vas juste y mettre la main, il lève, et c'est le Aaron qui va le porter. C'est-à-dire que tu vois, eux ils marchaient, mais en vérité c'est le Aaron qui les poussait. Et au passage, comment on savait quand on devait s'arrêter? D'accord. Il y avait les nuées de gloire qui avançaient. Il y avait souvent l'arche sainte qui se posait. Et quand elle se posait, tu peux pas la bouger. Donc on comprenait qu'il fallait s'arrêter. Et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs dans l'histoire des Philistins. C'est que l'arche sainte, elle s'est posée, on n'arrive plus à la déplacer.
Comment eux, ils sont réussis.
Parce que Dieu voulait nous punir, si vous que je te dise. Ils ont réussi.
D'accord,
ok. Mais après, ils ont compris. Au bout de 6 mois, ils ont vu la catastrophe que ça fait, ils ont compris. Voilà. Ça, c'est des miracles extraordinaires qu'il y avait autour de l'arche sainte. Miracle, miracle sur miracle sur miracle sur miracle sur miracle. On dit aussi que l'arche sainte, c'est ce qui a planifié toutes les voies, comme je vous disais tout à l'heure. On dit par exemple que lorsque les bénis d'Israël, ils étaient avec Moshe Rabbeinu, à un moment ils avancent. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que devant eux, il y avait deux nations qui avaient fait la paix ensemble, etc. Tout un mouvement géopolitique pour décider de faire la guerre ensemble à Israël. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont cachés dans le creux d'une montagne. En embuscade. Les juifs, ils vont passer, on va leur envoyer des flèches, on va semer le trouble et on va tous les tuer. D'accord? Maintenant, les bénis Israël, ils avancent. Ils sont pas au courant, ils sont en courant de rien du tout. On leur a rien dit. Ils avancent avec l'Aaron, etc. Et qu'est-ce qui se passe à un moment? Ils voient un canal avec plein de sang. Alors, ils disent à Moshe, mais c'est quoi ce sang là? C'est quoi? Ils ont mis un canal de sang. Ça n'existe pas. Alors, Moshe, il dit, regarde en haut. Il lève la tête en haut. Et ils ont vu, il y avait deux montagnes.
Ils ont écrasé.
Alors en fait, il y avait une montagne dans laquelle il y avait un trou, dans laquelle il y avait une embuscade, et une autre montagne dans laquelle il y avait une sorte de pointe. D'accord? Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer la pointe d'une montagne dans le creux de l'autre montagne, et il les a écrasés. Et ça, c'est le Aaron, ça, tu vois. Le Aaron, il a planissé.
Comme un président.
Le Aaron, c'est-à-dire, tu avances, tu fais rien, le Aaron, il... voilà, exactement. C'est pas seulement un radar. C'est pas seulement... Il a planifié, il enlève le danger. On m'a envoyé par WhatsApp la semaine dernière une vidéo. Il y a un système qu'ils font en Israël. Je sais pas comment il s'appelle, cette boîte qui a été rachetée par IBM là, israélienne. Mobileye, voilà.
Non, c'est par Intel.
Hein. Par Intel, oui, par Intel. C'est une société qui ont fait un système, d'accord, un radar qui anticipe les dangers qu'il y a devant, etc. Et avec pas mal de réussite. Ouais. Apparemment, ça a bien, bien réduit les accidents. Oui. Surtout en Israël. Et donc, ça a bien réduit les accidents.
Hein? Et pas seulement en Israël.
Et pas seulement en Israël. Ça a commencé en Israël. C'est une société israélienne.
C'est installé sur de nombreuses voitures de plusieurs constructeurs.
Ah, Mobileye, ça s'appelle. Alors, maintenant, je réfléchis à ça. J'ai dit Mobileye. Qu'est-ce qu'il fait, le Mobileye? Le Mobileye, il peut pas t'enlever l'obstacle devant toi.
Il
peut que prévenir. Te dire, attention, il y a un obstacle devant toi. Freine. Contourne-le peut-être, s'il est assez évolué, s'il est sûr de son coup, contourne-le, fais marche arrière, fais ce que tu veux, mais il peut pas t'enlever l'obstacle.
Non.
Il peut pas enlever l'obstacle il est là. Là, imaginez le Aaron, tu vois, Le Aaron, il t'enlève l'obstacle. Il y a un obstacle, il n'y a plus. Il y avait, il n'y a plus. Et c'est pour ça qu'on dit que les Bnei Israël, tu sais, Dan, les Bnei Israël étaient choqués. Parce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ils ont dit, c'est bizarre, on voit des montagnes de loin, et quand on avance, il n'y a plus de montagnes. Ils avancent toujours droit, et c'est toujours droit. Et, tu sais, dans le désert, vous avez géré dans le désert, tu, à un moment, tu contournes, etc. Alors déjà, il n'y avait pas de dunes, parce que tout était plat, parce que et en plus, tout était droit. Et puis, chemin, la route droite. Ils avancent, autoroute, droite. Ils disent à Moshe, ils ont dit, mais c'est quoi cette histoire, là? Il n'y a même pas de pente, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de ravin, il n'y a rien. Comment ça se fait? Et Moshe leur a dit, le Aaron qui est devant nous, il prépare la route. Il faut aplanir, il aplanit. Il faut élever, il élève. Lui, il faut que quand tu avances, il y a une route droite pour les Juifs. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Mais ça, c'est un miracle qu'on a eu seulement du vivant de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Bezrat Hashem, on fera un cours sur ça, par Shabbat à l'Otra. Ça, c'est un miracle, Rabotai, qui a eu lieu seulement du vivant de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, dès qu'Yoshua est arrivé, Dieu lui a dit, maintenant, toi, Yoshua, c'est terminé ce miracle. C'est-à-dire, le miracle du Aaron qui a plani les routes et qui prépare la route, etc. Ça, c'est que du vivant de Moshe Rabbeinu. Après, à l'époque de Yoshua, c'est différent. Bon, on a d'autres façons. Voilà. Donc, revenons à notre sujet. Bon, du coup, j'ai pas eu les chayes, moi. David, hein.
Non,
David. T'es bien endormi, sans les chayes.
Ça,
n'avait
pas de rien. Hein?
Je finis, ça arrivait.
Hein? Allez, bon. Alors, maintenant, on reçoit la Torah demain soir ou pas?
Il est concentré. Hein? Il est concentré.
Qu'est-ce qui se passe?
Il se prépare.
J'ai mis la clim, j'aurais pas du mal, je crois. Ça vous endormit.
Ça, c'est juste.
Ok. Donc, pour résumer, nous avons développé deux choses ce soir pour l'instant. J'ai encore une troisième chose, rapidement. Première chose, c'est expliquer la particularité des 10 commandements. C'est 10 paroles dans lesquelles il y avait toute la Torah qui est incluse. Deuxièmement, expliquer la particularité du support des 10 commandements qui a été créé depuis la création du monde, etc. Un support dans lequel il y avait un miracle. On a dit, c'est une matière particulière dans laquelle le spirituel est devenu matériel sans passer par aucun intermédiaire. C'est-à-dire que c'est une matière, on peut même pas définir en vérité, c'est une matière matérielle spirituelle. Notre cerveau ne peut pas comprendre, c'est pas possible, on ne peut pas comprendre. Bon, en tout cas, c'était comme ça. Il y avait des miracles. Et ça, c'est un miracle qu'il y avait autour de la chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait écrit dans les 10 commandements? Dans les 10 commandements, je voudrais m'arrêter sur quelques commandements. Pour montrer que, même dans l'ordre des 10 commandements, il y a une structure. On va prendre dans l'ordre. D'accord? Premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu. Bon. Deuxième commandement, tu n'auras pas un autre Dieu à part moi. Troisième commandement, tu ne feras pas d'image de ce qui est en haut. Quatrième commandement, tu ne témoigneras pas en vain. D'accord? Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Sixième commandement, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Alors là, tout de suite. Non, justement. Là, tout de suite, Nachmanide nous fait remarquer la chose suivante. Il nous dit, puisqu'on nous dit que les 10 commandements sont séparés apparemment en deux tables, j'entre pas dans les détails, donc ça veut dire qu'il y a deux tables. Il y a une table dans laquelle il y a 5 commandements et une table dans laquelle il y a 5 autres commandements. Bon. Il dit, de manière générale, la première table, donc les 5 premiers commandements, correspondent aux mitzvot qu'il y a entre un homme et Dieu, donc les mitzvot verticales, d'accord? Alors que les commandements suivants sont des commandements qui sont entre les hommes, envers les hommes, d'accord? Comme ne pas voler, ne pas tuer, etc., comme beaucoup de commandements. Alors là, tout de suite, il y a quelque chose qui a l'air incohérent, parce que le respect des parents, dans quelle table on l'a mis? On l'a mis dans la table entre l'homme et Dieu. Comment ça se fait? Pourquoi le respect des parents, on l'a mis dans la table qui est entre l'homme et Dieu? Pourquoi le respect des parents, on l'a pas mis dans la table qui est entre les hommes? Il y a plusieurs réponses à la question. Une des réponses qu'on donne, c'est qu'en vérité, il faut se rappeler que lorsque Akadosh Baruch Hu nous a créé, il y a trois associés pour créer un homme. Trois associés. Il y a Dieu, le père et la mère. Et lorsqu'on dit honore ton père et ta mère, c'est pas seulement honore ton père et ta mère biologique, c'est aussi honore Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et Nachmanide fait remarquer quelque chose de très intéressant. Il dit, regardez, si vous regardez bien, si vous comparez, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de similitudes entre les mitzvot liées au respect des parents et les mitzvot liées au respect de Dieu. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de prononcer le nom de Dieu en vain? Non. Est-ce que j'ai le droit de prononcer le nom de mon père pour l'appeler en vain?
Non.
J'ai pas le droit. D'accord? J'ai pas le droit d'appeler mon père par son prénom.
Ah, d'accord.
Pourquoi? Là, tu vois, même chose. J'ai pas le droit de dire le nom de Dieu en vain. J'ai pas le droit d'appeler. Donc, ça veut dire, on fait une similitude entre les parents et Dieu. Plein d'exemples. Est-ce que, de la même façon, j'ai pas le droit de manquer de respect à mes parents? J'ai pas le droit de manquer de respect à Dieu. J'ai pas le droit de m'asseoir à la place de mon père. D'accord? Il y a les endroits dans lesquels ils sont saints, dans lesquels j'ai pas le droit de m'asseoir, qui sont spécifiques à Dieu, comme le Saint des Saints, auquel j'ai pas le droit d'entrer. Etc. Vous prenez pratiquement tous les commandements liés au respect des parents, vous allez retrouver comment en vérité c'est similaire à une mitzvah qui a par rapport au respect de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans le respect des parents, il y a le respect de Dieu, et dans le respect de Dieu, il y a le respect des parents. Tu vois, dans les deux sens. Parce que Dieu est notre père, d'accord? Et il fait partie des associés. Cependant, et là c'est un point très important, quand on lit la deuxième partie des commandements, on pourrait être un petit peu déçu. On pourrait penser que c'est les commandements qui sont un peu basiques. Première partie, c'est plus puissant. C'est, voilà, je suis l'éternel de ton Dieu, tu vas reprendre l'autre Dieu, tu feras pas d'image de ce qui est en haut, ça ne cherche pas à chercher de complications. C'est puissant, la première table. La deuxième table, ça a l'air un peu basique. Bon, fais le Shabbat, c'est bien faire le Shabbat. Pas voler, ne pas tuer, ne pas convoiter, etc. Bon, c'est des choses qui sont bien, mais ça n'a pas l'air de choses qui sont puissantes. Et la vérité, c'est qu'on pourrait même se poser une question. Est-ce que d'après vous, avant les 10 commandements, il y avait déjà des civilisations par exemple qui faisaient attention de ne pas voler ou de ne pas tuer?
Oui,
certainement, bien sûr, certainement. On l'a appris avec le Noachid.
Le Noir.
Donc, quand tu as Dieu qui parle, Dieu qui dit je suis l'éternel de ton Dieu, dis bon, d'accord, ça va, c'est fort. Il te parle, je suis l'éternel de ton Dieu. Après, quand tu me dis un truc, ne vole pas, ne tue pas, etc.
C'est logique, ça n'a pas besoin.
C'est logique. Qu'est-ce que tu as besoin de me raconter ça? Sors-nous un truc plus puissant. De toutes les façons, on est limité à 620 lettres. Alors vas-y, insère-nous des commandements plus puissants.
Excusez-moi, non. Aujourd'hui, pour nous, en 2017, ça ne peut pas être évident. Mais je pense que ramener au contexte, et encore aujourd'hui, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, etc. C'est pas évident.
Bah, attendez, on sait que le monde a été détruit à l'époque de Noé à cause du vol.
Par exemple.
Ah, attendez. À cause du vol, c'est écrit clairement. Va-t-il m'aller, arrête, Ramas. Ramas, c'est le vol. Ramas, c'est le vol. Non. C'est-à-dire, tout le monde, après, est-ce qu'il le respectait ou pas? C'est une autre question. Mais tout le monde savait que le monde a été détruit à cause du vol. Sodome et Gomorre, tout le monde savait ce qu'il y avait à Sodome et Gomorre. L'adultère, la débauche, on savait. Maintenant, après, est-ce que les hommes respectaient ou pas? Je sais pas. C'est une autre question. Mais tout le monde savait que celui qui respectait pas certaines lois prenait sur la tête. Et le peuple entier prenait sur la tête. Le monde entier prenait sur la tête. Donc, a priori, lorsque Dieu vient nous voir avec nous, il dit comment? Il dit voilà, je suis l'éternel ton Dieu. Bon, ça c'est fort. Après, il dit ne pas voler, ne pas tuer. Bon, c'est bien, c'est important, mais c'est pas puissant. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? Et là, on a, oui, mais on savait déjà.
Oui et non.
J'ai pas besoin de Dieu pour me dire ça.
Je sais pas, moi, je, enfin.
Mais attendez.
Ouvrez les informations, regardez.
Je sais, mais j'ai pas besoin que Dieu me le dise de pas voler. À la limite, ça, Moïse l'aurait pu me convaincre, tu veux pas voler. J'avais besoin que Dieu me dise ne vole pas. C'est comme si Dieu me dit tu vas respirer, tu vas aller travailler. Ok, alors Moïse aurait pu m'expliquer ça. Alors en fait la réponse est très simple. Écoutez la réponse, vous allez voir. La réponse est très simple. C'est que effectivement il y a des lois qu'on aurait pu découvrir de nous-mêmes sans aucun problème. Mais c'est spécifiquement ces lois qui ont l'air simples que Dieu met dans les 10 commandements pour te montrer la chose suivante. Pour te dire, ne crois pas que Dieu s'exprime seulement dans les choses très sacrées, très élevées, mais que dans les choses, dans les mondanités, dans les choses de la vie de tous les jours, ça Dieu ça l'intéresse pas. Ne crois pas ça. Au contraire, bien au contraire. Dieu se trouve partout. Et aujourd'hui, si je ne vole pas, d'abord, parce que je sais que c'est pas logique, mais c'est d'abord et avant tout, surtout, parce que Dieu m'a interdit de voler. Parce que je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est logique de pas voler et de pas tuer. Imaginez maintenant que demain, ça devient la norme de voler. Je fais quoi?
Je peux pas voler.
Imaginez, aujourd'hui, c'est encore Baruch HaShem la norme de ne pas voler, de ne pas tuer, etc. Imaginez que demain, ça devient la norme de voler. Que pour qu'il faut voler.
Ouais, très fort.
D'accord. Imaginez que ça devient la norme.
Un peu puissant.
Qu'est-ce qu'on va faire?
Ah,
eh ben non. Ah, monsieur Benita.
Ah, vous parlez de voler
contre l'avion. On volera.
Puisque c'est autorisé.
Non, c'est par la loi.
Pour l'égoïme.
Alors, c'est ça la différence. C'est que nous, les juifs, la raison pour laquelle on le respecte, c'est pas parce que c'est logique. C'est parce que Dieu nous l'a dit.
C'est comme le rasier.
D'accord. Eh oui. C'est parce que Dieu nous l'a dit. Et ça, c'est un point très très important. C'est un point très important. Le fait de comprendre. Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu vous a donné la Torah. Et il veut que la Torah se développe dans chaque chose de la vie de tous les jours. Et là, je pense qu'avec ça, on va terminer le cours. Et là, on voit comment il y a une progression très claire. C'est-à-dire, au début, on te parle dans le cours, on nous a parlé de l'importance des 10 commandements, tout qui est écrit dedans. Après, on a parlé du support. Et là, on t'explique que finalement, le but de tout ça, c'est quoi? T'aurais pu croire, le but, c'est de mettre dans un musée et de dire, regarde, t'as vu les tables de la loi? C'est sacré, c'est des miracles, dans un musée! On te dit non! Le but des tables de la loi, c'est pas de les mettre dans un musée. Les buts des tables de la loi, c'est de faire descendre ça dans la vie de tous les jours. Et vous remarquerez que plus on va dans les commandements, et plus ça descend. Ça descend. Après, on dit ne pas voler. Après, ne pas tuer. Après, on parle même d'un gars qui va convoiter la femme de l'autre. Tu dis, mince, on vient de commencer avec juste l'éternel ton Dieu, tu me parles de convoiter la femme de l'autre. Tu crois que Jésus pensait à ça au pied du Mont Sinaï avec Dieu? À la limite, ils vont dire, attends, ça va Dieu, bon, ça va, doucement, on veut recevoir la Torah direct, tu nous dis convoiter la femme de l'autre, vouloir prendre le terrain de l'autre, doucement, doucement. Eh ben non, parce que Dieu, il te dit, je ne te donne pas la Torah pour la mettre dans un musée, je te donne la Torah pour que tu la mettes au fin fond de ta personne. Au fin fond, c'est-à-dire jusqu'au dernier recoin de ta personne. Même le recoin que tu n'as pas envie forcément de voir, même dans ces recoins, tu dois amener Dieu, tu dois montrer que Dieu est présent, et surtout, Dieu est présent de façon miraculeuse. De la même façon qu'il est présent dans les 10 commandements, le juif, il doit savoir que Dieu est présent par la Torah et les mitzvot de façon miraculeuse. Alors enfin, ce que je voulais juste terminer, aujourd'hui, on sait qu'il y a un Aaron quelque part dans le monde, mais ce Aaron, on ne le voit pas. C'est-à-dire, à l'époque, le Beth Amidash, c'était sympa. Tu voulais sentir un peu de Kdoucha, tu partais à Jérusalem, t'étais refait. Tu sentais, voilà, tu t'es de la Kdoucha. Aujourd'hui, je sais pas où c'est le Aaron. Alors, je fais quoi aujourd'hui? C'est quoi le Aaron aujourd'hui? Alors, il faut savoir que le Aaron, c'est plusieurs choses aujourd'hui. Le Aaron, c'est expliqué dans la Gemara qu'aujourd'hui, on peut retrouver le Aaron dans l'étude de la Halakha. Quand on étudie la Halakha, on ressent cette puissance et cette idée que je dois faire, et c'était comme ça, une Kdoucha. La Halakha. C'est écrit aussi qu'on ressent ça chez les Tzadikim. Quand on va chez un Tzadik, que ce soit chez un tzaddik en vie ou même à la tombe d'un tzaddik, on dit que chez les tzaddikim, il y a un petit peu de cette kedusha du Aaron. C'est cette kedusha, c'est le matériel intemporel, le matériel spirituel. D'accord? Ça reste un petit peu. C'est pas le Aaron, évidemment, le Aaron, il y en a qu'un seul dans le monde, c'est une pièce unique, il est à Jérusalem, ou je sais pas où, quelque part dans le monde, je sais pas, Timbuktu, je sais pas où il est. Bon, en tout cas, il est quelque part. Mais on peut retrouver un petit peu un avant-goût de ça, quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, c'est les tzadikim, c'est la halakha, l'étude de la halakha. Et on doit se dire que le but de toute cette Torah, c'est quoi? C'est pas de mettre ça dans un musée, c'est de faire descendre ça dans notre vie de tous les jours. Et lorsqu'on montre que la Torah peut descendre dans la vie de tous les jours, on montre que c'est ça la grande force du spirituel, c'est que plus un élément est élevé, et plus il peut descendre n'importe où. N'importe où. La Torah, elle passe partout, elle peut passer n'importe où, elle peut rentrer n'importe où. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui est hermétique et imperméable à la lumière de la Torah. La lumière de la Torah peut rentrer partout. Et ça, c'est la particularité du miracle des 10 commandements, donc les paroles, les 10 paroles, et aussi le miracle des louchot, des tables de la loi. Donc là, je pense que, en tout cas, moi, quand j'ai appris ce chapitre, les tables de la loi, je les vois vraiment différemment. C'est pas pour moi un support dans lequel on a écrit quelque chose. C'est quelque chose de très, très, très spécial. C'est une façon de faire qui a été créée depuis la création du monde, dans laquelle t'as un spirituel qui est dans le matériel et qui doit être là quelque part dans le monde, sinon le monde ne tiendrait pas. Voilà. Mais Bezrat Hashem, c'est là, c'est pour ça qu'on tient. Voilà.
La guerre des étoiles.
Dans une demi-heure. Qui c'est qui peut attendre
une demi-heure sur la...
Quoi?
Sur les derniers...
qui c'est qui va attendre
une demi-heure?
Oui.
Vous dites qu'aujourd'hui c'est...
Non, j'ai pas dit... Attendez. Non. Ce que j'ai dit, c'est que c'était pas un élément nouveau. On avait déjà entendu ça.
Bravo.
Vous avez entendu parler des sept lois noachides? Qui a instauré ces lois? Noir. Un noir, c'était 1000 ans en arrière, c'était 1000 ans avant.
D'accord, mais on voyait bien que dans les civilisations, et jusqu'à aujourd'hui,
oui,
ces lois ne sont pas appliquées.
J'ai compris.
Regardez,
mais c'est quelque chose de très très primaire.
Non, mais dans nos sociétés dites entre guillemets modernes, on voit bien que
vous avez raison.
S'il n'y a pas de police,
oui.
Malheureusement, on voit que
c'est la loi du plus fort.
Exactement.
C'est la loi du catastrophe.
C'est la loi du plus
vrai.
Fort. De plus en plus.
On a pas même avec la police, déjà, il est cagé.
Même avec la police,
on voit que...
Vous avez raison.
Donc c'est pas grave. Il n'y a pas vers l'arbitre. C'est pas quelque chose de...
Il y a
pas
vers l'arbitre. Nous, on est en 2017.
Moi, je viens, mais dans les
cours. Non, ferme maintenant.
Mais ce que je veux dire, c'est quand même quelque chose de très primaire. Quand on voit les autres éléments, je suis l'éternel ton Dieu, Shabbat, etc. Ça reste, quand on parle du vol, du meurtre, de la convoitise, c'est des choses très animales, c'est animal, c'est presque animal. Et c'est pour ça que, et volontairement, Dieu les inclut dans les 10 commandements, pour dire le but de la Torah, aussi sacré qu'elle puisse être, les 10 commandements, c'est énorme. C'est d'aller partout.
Dans les instants primaires.
Primaires, mais vraiment, presque animaux.
Ah oui, ouais, je vais mettre
le bon. Je lui arrange pour la prochaine
fois. Ah oui, hein? Il n'y a pas.
Voilà, bon, allez. Kabbalat Torah, Besimra, Uftimiyut, qu'on puisse recevoir la Torah avec joie et profondeur. Ah.